Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Vous voulez faire partie de votre communauté? Devenez membre de votre station préférée en vous procurant votre carte de membre au coût de 5 $. En tant que membre, vous aurez droit de vote aux assemblées générales. La carte de membre est disponible au bureau du 92.5 Jonquière et chez Gillo Music, Alma.
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Pièce d'auto Sainte-Geneviève est fière de vous présenter l'émission Réveillez-vous. Pièce d'auto Sainte-Geneviève, une identité régionale depuis 28 ans. 4 points de vente au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec un site 100% transactionnel. Pièce d'auto Sainte-Geneviève vous souhaite une bonne émission.
Pour partir la journée du bon pied, le 92.5 vous accompagne dans la bonne humeur et vous livre toute l'actualité. Avec Dominique Bolduc, Pat Bouchard et Éric Lavoie. Voici votre émission matinale.
Un bon début de journée, déjà rendu mercredi, milieu de semaine, 20 novembre 2024. Bienvenue à Réveillez-vous, à ma radio d'ici. Dom Bolduc, Pat Bouchard, également Éric Lavoie, qui sera avec nous dans une trentaine de minutes. Pat, bon début de journée.
Salut.
Encore une fois, très confortable à l'extérieur. Oui. Mercure actuel de 2 degrés, on en prévoit 7 aujourd'hui avec de la... On dit de la bruine intermittente.
Ouais.
Hein? Donc, un mélange de pluie, de bruine. Ça devrait être brumeux un petit peu à certains endroits. Mercure, quand même, très intéressant à 7 degrés. Là, on est largement au-dessus des normales de saison. Même au niveau des nuits, là, on n'est pas encore sous le point de congélation. Normal, là, c'est moins 1 le jour, puis ouais. moins 8 la nuit, rendu le 20 novembre. On est à 7, puis annonce 3 cette nuit. Les premiers moins pour arriver en fin de semaine, je vous dirais, là, dans la nuit de samedi à dimanche, de dimanche à lundi, on parle de neige intermittente. Est-ce qu'on pourrait voir les premières accumulations? Sauf le jour, on remonte encore
ben,
à
2. C'est ça, puis de la pluie prévue, donc ça va fondre à mesure. Mais là, je suis en train de me dire, si on prévoit beaucoup de neige cet hiver, elle va tomber d'un coup en tabarcelac, parce que comme c'est là.
Absolument. C'est très pluvieux. Il y a beaucoup de précipitations. Là, à compter d'aujourd'hui, demain, pluie intermittente vendredi, des averses pour samedi, neige ou pluie pour dimanche. Donc, on devrait voir des précipitations là, jusqu'à dimanche, à tous les jours, là, à compter d'aujourd'hui et même au courant de la nuit. Alors, ce sera à surveiller, évidemment, là, si toute cette pluie-là pouvait tomber en neige. On en aurait déjà une petite quantité, disons. Oui. Petite quantité. Pat, je te confirme que on a raté notre vie. On a raté notre carrière. Même si on est bien heureux en faisant de la radio, ça a l'air convenable et tout ça, c'est chirurgien qu'on aurait dû faire.
Ouais, sauf que c'est pas facile.
C'est pas facile, ça demande beaucoup. Mais je dis ça en blague, c'est que ce matin, on a dévoilé qu'on a eu un record absolu du nombre de chirurgiens, du nombre de médecins qui sont les mieux rémunérés au cours de l'année 2023. 324 médecins chirurgiens généraux ont été millionnaires au Québec en 2023. Donc, 324 médecins ont gagné plus d'un million l'an dernier. C'est un record absolu. C'est un chirurgien général qui lui a empoché le plus gros revenu au Québec en 2023 avec près de 3 millions de dollars. C'est un record. Ce sont les données qui ont été qui sont compilées depuis 2014 par la Régie de l'assurance maladie du Québec, la RAMQ. Et on a dévoilé là, les plus grands. Donc, le chirurgien général le mieux payé a gagné la somme de 2 939 413 dollars. En deuxième position, c'est un omnipraticien qui a gagné plus de 2,4 millions. Un interniste.
Probablement un interne à l'hôpital.
Oui, probablement. 2,4 millions également. Un ophtalmologiste, près de 2,3 millions. Et un radiologiste, 2,1 millions. Donc, on dit que le nombre de médecins millionnaires a pratiquement doublé depuis 2014, alors qu'il y en avait 166. Et la docteure Isabelle Leblanc, qui est présidente du regroupement des médecins québécois pour le régime public, mentionne que c'est quand même inquiétant. On dit que c'est pas parce que les revenus ont augmenté que la quantité de soins a augmenté également. Si le système s'améliorait, ce serait moins dérangeant qu'en ce moment. On dit le système, tu sais, il n'est pas super.
Quoi qu'on a vu dernièrement que ça allait de mieux en mieux du côté des chirurgies, ça explique peut-être justement ouais. qu'ils ont fait plus d'argent parce qu'ils en ont fait plus, évidemment.
Absolument, peut-être.
Puis tu sais, moi, je vois les médecins, les chirurgiens plutôt, un peu comme les joueurs d'hockey, tu sais. c'est pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de médecins qui se retrouvent chirurgiens parce que c'est très difficile.
C'est ça.
S'y rendre, le faire, ça prend des études. Donc, ça prend des gens qualifiés parce que tu veux pas avoir un tata qui te joue dans le corps. Tu sais.
Tout à fait. Donc, en 2023, 8 médecins ont reçu une rémunération de plus de 2 millions. C'est 3 fois plus qu'en 2022. Évidemment, leur identité est gardée confidentielle par la RAMQ, qui ce sont eux qui paient les médecins, évidemment. On dit qu'il n'y a eu aucune augmentation des tarifs reliés aux actes médicaux au Québec depuis les dernières années. Et si un médecin gagne plus, ça veut dire qu'il a donné plus de soins à ses patients. Donc, c'est quand même positif, là. Mm-hmm. Revenus qui comprennent l'ensemble de la facturation des médecins. Actes, forfaits, primes d'éloignement. Mais ils ne comptent pas les montants gagnés au privé par les professionnels qui se désaffilient à la RAMQ comme pour faire des opérations ou de la télémédecine. Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, jusqu'à 30 % des revenus des médecins servent à payer des frais de cabinet ou d'équipement. Ces frais qui peuvent même atteindre 70 % et ont beaucoup augmenté avec l'inflation. Donc, des données qui montrent clairement que la rémunération à l'acte est problématique, selon la docteure Leblanc. On dit, c'est sûr que ces médecins-là travaillent très fort, mais travaillent-ils plus fort que d'autres? On ne dit pas nécessairement. Est-ce qu'ils organisent leur pratique plus en fonction de la rémunération que de la qualité des soins? On dit que ça pourrait être une hypothèse possible. On dit qu'en 2023-2024, les établissements de santé avaient enregistré un déficit d'$1 milliard. Et la semaine dernière, la présidente directrice générale de Santé Québec, Geneviève Biron, avait évoqué que les établissements devront couper pour revenir à l'équilibre budgétaire, mais sans réduire les soins aux patients. Comment vont-ils faire? Oui. C'est la grosse question. Donc, encore une fois, la grande majorité des médecins millionnaires sont des spécialistes. Les radiologistes arrivent en tête avec 111 professionnels qui ont déclaré plus d'un million de revenus. C'est 19 % donc c'est un médecin sur cinq qui est en radiologie et qui gagne plus d'un million de dollars. Chez les omnipraticiens, c'est le nombre de millionnaires qui a bondi en une année, passant de 26 à 42. En restant dans la santé, on parle de grippe aviaire. Il y a une deuxième ferme de volailles au sud du Québec en l'espace de 2 jours qui est frappée par une éclosion du virus de la grippe aviaire, virus qui pourrait être à l'origine de la prochaine pandémie humaine. C'est ce que craint un expert. Parce que au cours des dernières semaines...
Le 9 novembre, je me demandais, c'était quand? Le 9 novembre, c'était une personne, un jeune dans l'Ouest qui l'a attrapé.
En Colombie-Britannique.
Je me posais la question comment est-ce qu'il allait. Il est encore en danger de mort.
Oui. Donc, pour le docteur Jean-Pierre Vaillancourt, vétérinaire expert des maladies transmissibles des animaux aux humains, la découverte d'un deuxième site d'infection dans un élevage de volailles de la Montérégie, on dit entre Chambly et Saint-Jean-sur-Richelieu, est une situation préoccupante pour l'industrie. Découverte rendue publique par l'Agence canadienne de l'inspection des aliments le 18 novembre fait suite à une éclosion annoncée la veille à Sainte-Hélène-de-Bagotte entre Saint-Hyacinthe et Drummondville, donc deux sites complètement différents. Est-ce que ce virus pourrait causer la prochaine pandémie humaine? Le vétérinaire a répondu oui, sans hésiter. Il surveille la progression du pathogène depuis plusieurs années, mentionne que le premier Canadien infecté par le virus de la grippe aviaire, on l'a mentionné, c'est un jeune homme dont le sexe et l'âge n'ont pas été précisés, mais il me semble qu'on avait sorti un jeune homme de 14 ans.
Oui, quelque chose comme ça.
Oui. Et là, il repose, comme tu mentionnais, actuellement dans un état critique, toujours quelques jours plus tard. Le vétérinaire ajoute que le virus demeure encore principalement confiné aux oiseaux, ce qui diminue ses chances de conquérir l'espèce humaine à court terme. Sur le plan de la santé publique, plus le virus va s'adapter à une variété d'animaux, plus il va risquer d'être passé aux êtres humains. Évidemment, c'est un virus, si c'est un être vivant.
S'il commence à passer à des animaux de compagnie,
mais là, c'est bien dangereux. C'est beaucoup plus propice. Donc, cela dit, la probabilité qu'il devienne pleinement zoonotique, soit avec l'habilité de passer facilement entre êtres humains, reste très faible. À court terme, on s'inquiète pour les productions de volailles du Québec. Très préoccupant pour l'industrie du canard également. Pour les autres productions, je te rappelle que le virus demeure présent. Alors, on a fait une carte qui démontre le point névralgique. On parlait de Sainte-Hélène-de-Bagotte, on parlait entre Chambly et Saint-Jean-sur-Richelieu et les alentours, jusqu'où ça peut toucher et les impacts que ça pourrait amener. Donc, la grippe aviaire qu'on appelle l'influenza virus de type A affecte les oiseaux, des conséquences qui peuvent être dévastatrices et transmission entre animaux et humains. Ça demeure des cas rares, mais on en a eu la preuve il y a quelques jours à peine.
Et s'il y a une mutation du virus qui peut devenir
ça
justement
peut toujours arriver.
Humain, ben là, ça peut être un problème. Et un autre problème que ça amène, ben, c'est la production. Mais pas la volaille, c'est tous ceux qui ont le virus, il faut les euthanasier.
Oui, c'est pas. Ça. Faut
donc,
les tuer.
Je veux pas sur la production, ben, ça paraît beaucoup. Là.
Ce sont des pertes quand même très, très importantes. Tiens, parlons maintenant d'aide alimentaire. Le nouvel entrepôt de moissons Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est situé du côté de Dolbeau-Mistassini, a permis de doubler le volume de nourriture offerte aux personnes dans le besoin. On dit un peu plus d'un an, 304 000 kg de nourriture d'une valeur de 1,5 million de dollars ont été redistribués grâce à cette nouvelle infrastructure. On dit avec le nouvel entrepôt, on reçoit maintenant le double de nourriture par semaine pour le comptoir d'aide alimentaire. Une infrastructure qui vaut de l'or parce que ça permet de redistribuer 250 000 $ de nourriture à près de 3 000 personnes par année. C'est l'équivalent de 1500 livres de nourriture par semaine. Donc, une aide qui est d'autant plus indispensable alors que les demandes d'aide alimentaire explosent. Il y a de plus en plus de demandes. On recevait environ 500 demandes par année il y a quelques années. On est rendu à plus de 2000. Ça a quadruplé littéralement. Ça fait plusieurs années que Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean souhaitait ouvrir un entrepôt dans le nord du Lac-Saint-Jean. Et c'est en novembre 2022 qu'un bail a finalement été signé pour l'implanter à Dolbeau-Mistassini. Investissement de 615 000 $. L'organisme a pu démarrer ses opérations en mars 2023 dans un entrepôt de 11 200 pieds carrés. Et depuis ce temps-là, ben, ça fonctionne énormément bien. Donc, bravo. Donc, bravo à tout l'organisme. On va au téléphone 6h11. Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
Ah, j'appelle juste pour dire pour les virus, là.
Oui.
Ça finit plus. C'est le virus du singe, c'est le virus du riz, de la poule, de n'importe quoi. Ça n'a plus de conscience.
Mais il faut faire avec, hein. Les virus, ce sont des êtres vivants, ça évolue.
Vous faites peur au monde pour rien. Les TVA poubelles là, qui coûtent.
Ben, changez de poste, monsieur, si vous n'êtes pas content.
Bonne journée.
Merci. Faut en parler, ça fait partie de l'actualité.
Ah oui. Hey, mais eux, ils ne croient pas. Ben, ces gens-là ne croient pas à ça. Fait que c'est sûr qu'eux autres, d'en parler, ben là, vous faites peur. On ne veut pas faire peur au monde.
On, faire peur. On
dit juste que ça se produit présentement chez nous.
Tu sais, il y a deux centres. Là. Si on était dans le coin de Chambly, ça, on n'aurait pas le choix de l'avertir en plus.
Si ça
puis on en a des fermes de volailles
ben
ici.
Oui.
On en a. Là.
Puis si ça se produisait en Chine, ben là, on passerait à côté.
Ah ouais, ben oui, c'est sûr.
C'est chez nous.
Hey.
Puis le gars, il est dans l'Ouest, là, le gars que lui l'a attrapé. Là.
Ouais.
Ça pourrait arriver ici.
C'est arrivé. Il y a un gars, il y a une personne qui a été touchée, un jeune.
Parce que si on n'avertit pas, ben, les jeunes vont aller jouer avec les poules, se fait picosser, pouf, pogne le virus.
Ça, on ne sait pas encore comment ça peut arriver, mais tu sais, évidemment, il y a eu contact. Là,
non, ouais, non, c'est certain.
Hey, j'ai découvert une nouvelle race de poissons. Poisson ruban. T'as-tu vu passer ça?
Oui, mais je connaissais pas non plus. Des poissons de fond, semble-t-il.
Oui, des fonds marins. Un poisson ruban qui est considéré dans le folklore japonais comme le présage, on dit, d'une catastrophe imminente. On dit qu'un poisson ruban de près de 3 mètres de long des fonds marins se serait échoué à nouveau en Californie au début du mois de novembre. Donc, ils ont prélevé des échantillons, congelé le spécimen en attendant une étude plus approfondie et une conservation finale dans la collection de vertébrés marins. Écoute, c'est assez spécial. C'est pas beau.
Non.
C'est vraiment
laid. Les poissons de fond sont rarement beaux.
Oui. Donc, au début du mois de novembre, l'étrange créature des fonds marins qui vit habituellement jusqu'à 3000 pieds sous la surface de l'océan se serait ainsi échoué sur la plage Grandview. En Californie, mesurant 9 et 10 pieds, donc c'est environ 3 mètres, et peuvent atteindre jusqu'à 9 mètres de long, ce genre de poisson. On dit que depuis 1901, le poisson ruban, également serpent de mer, ou poisson de l'apocalypse, n'aurait été vu que 22 fois en l'espace de 124 ans. On dit que c'est pour une raison qui demeure floue. Il s'agissait de la troisième apparition de ce type de poisson en 3 mois, alors qu'un premier spécimen s'était échoué en août dernier du côté de San Diego, alors toujours en Californie, puis un autre en septembre. On dit que ça pourrait être dû au changement dans les conditions océaniques.
Bien, El Niño, le changement entre les deux, il y a un changement de
température
de l'océan, donc ça les affecte plus, évidemment.
Donc, changement dans les conditions océaniques, l'augmentation du nombre de poissons rubans au large de nos côtes. On dit que parfois ça peut être lié à des changements plus larges, comme les cycles, comme tu mentionnais, El Niño et La Niña. Mais on dit que ce n'est pas toujours le cas. Il y a eu un faible El Niño plus tôt cette année. Donc, on l'appelle poisson apocalyptique en raison d'une croyance japonaise, selon laquelle les apparitions de ces poissons des profondeurs seraient un précurseur d'une catastrophe naturelle, comme un tremblement de terre, un tsunami spécial. T'sais. En 2010, il y a une douzaine qui avaient d'ailleurs été signalées par le littoral japonais, juste avant que le Japon connaisse son plus grand tremblement de terre enregistré en mars, quelques mois plus tard. Donc, c'est une réputation un peu mythique.
Ben, peut-être que les experts disent qu'en Californie, il y en a un gros qui s'en vient, un tremblement de terre.
Oui, tout à fait.
Parce que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Je pense que dans les années 80, le dernier gros qui a vraiment fait...
Ben, 89, San Francisco, ça avait brassé énormément.
Puis...
Ça fait 35 ans.
C'est ça, puis je pense que c'est aux 20 ans, ça fait qu'il est en retard, ça fait qu'il s'attend dans un gros.
Pour expliquer la situation, la Californie ne fait pas partie de la même plaque tectonique que le reste des États-Unis. Il y a une grande faille, la faille de San Andreas.
Qui porte son nom.
Oui, la faille de San Andreas qui s'élargit d'année en année. Ça devient un trou complètement presque sans fond.
Je pense que c'est dans une centaine de milliers d'années, la Californie devrait être séparée du continent américain.
Ça va être une île, littéralement, l'eau va prendre sa place et la Californie va s'éloigner davantage des États-Unis pour s'en aller dans l'océan Pacifique. C'est qu'il y a 12 plaques tectoniques au niveau de la Terre. Et ces plaques-là bougent. Il faut vous donner une idée, à une certaine époque, tous les continents étaient réunis ensemble. Quand vous regardez l'océan Atlantique qui est fait en S, vous voyez que l'Afrique du Sud s'en allait directement jumelée à l'Afrique. Le haut, la pointe de l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, allait directement dans les Caraïbes. Et quand on montait, l'Amérique du Nord allait se jumeler à l'Europe. Tout ça se sépare. On s'en va de l'autre côté. On va aller se rejoindre, mais de l'autre bord. Évidemment, on ne sera plus là. Ça va être dans des millions d'années. Mais à chaque année, ces plaques bougent. Et... soit ils s'écartent, soit ils se rentrent dedans. Et c'est à ce moment-là que se créent des fois des tremblements de terre un peu plus.
Et quand ça s'écarte de notre côté, elle se rapproche d'un autre. Donc, c'est un tremblement de terre quelque part ailleurs.
Exactement. Et lorsqu'il y avait eu, souvenez-vous, le fameux tsunami, il faut monter quoi là, 2004, du côté de l'Indonésie, la chose qui est arrivée, c'est qu'il y avait deux plaques tectoniques. Et je ne sais pas si... soit elle est montée, c'est une qui a monté sur l'autre.
Il y en a une qui est tombée d'un, je pense, 30 mètres d'un coup. Pouf.
Il y en a une qui était montée une par-dessus l'autre. Et là, elle s'est tassée. Et en se tassant, elle est tombée. Elle, c'est comme si vous preniez là, deux blocs, là, puis vous les tassiez un côté de l'autre, puis ils tombaient à côté. C'est arrivé ça. Prenez des plaques à la grosseur, côté inimaginable, dans le fond de la mer, qui tombent. Ça a fait un raz de marée.
C'est toute la quantité d'eau qui tombe d'un coup, puis donc qui fait une grosse vague.
Et ça a fait évidemment le fameux tsunami là, qui a creusé, je pense, c'est plus de 200 000 morts du côté d'Indonésie, de l'Inde et tout ça. Donc, ces plaques-là bougent, puis à certains endroits, quand ils se rentrent dedans, les plaques rentrent
en dessous.
En dessous, une par-dessus l'autre. Et ça fait créer des chaînes de montagnes.
Ouais.
Quand on regarde au niveau de l'Everest, le K2 et tout ça, l'Himalaya, ce sont des montagnes qui sont quand même assez récentes. C'est parce que les deux plaques se sont rentrées dedans, puis ils poussent, puis ils poussent, puis ils poussent.
Et c'est la raison pour laquelle l'Everest continue de grandir.
Oui, effectivement.
Parce que ça continue de pousser.
Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on disait que l'Everest était 8846 mètres. Puis on est rendu à 8848, si ce n'est pas 8849. Ça monte de quelques centimètres à l'occasion.
Mais tu sais, regarde, c'est... c'est pas si long que ça. Là,
c'est
quand
pas
tu
si
y
long.
Penses, là.
Ouais, quoi, en 30 ans, ça a monté de 3 cm, 2 ou 3 cm. Donc, et d'un autre côté, du côté de la Californie, les deux plaques qui sont là, elles se séparent. Et la faille grandit, on parle de quelques millimètres par année, là, mais elle grandit quand même. Puis à un moment donné, je pense qu'elle va donner un coup. Puis ça va causer peut-être un tremblement de terre là, d'une intensité. Là, quand on remonte au tremblement de terre de 1989. Étais-tu des 8?
Je ne le sais pas, mais c'est parce qu'on a eu l'impression qu'il était plus gros parce que les infrastructures n'étaient pas prêtes, puis il y a une autoroute qui s'est effondrée sur une autre autoroute.
Ah, ben oui.
On parle de d'ici 2030, le gros prochain là, du côté de San Andreas.
San Francisco, on dit qu'il y en a eu un en 1906. J'ai tapé tremblement de terre, San Francisco m'a sorti 1906, 1989, 1994, puis 2024. Donc, il y en a quand même. Mais celui de 1989...
Et 2024, c'est moins gros. Là, on fait moins de dommages.
Mais celui de 89, on parle de 6,9, provoqué par un glissement le long de la faille de San Andreas. On dit entre 10 et 15 secondes, mais 6,9 sur l'échelle de Richter, c'était quand même un majeur. Hey, mais il ne faut pas oublier, hein, 6,9, celui qu'on a eu ici, c'est un 6.
Oui.
C'est un gros, là, quand même. Mais étant donné qu'on est sur une... sur le bouclier canadien, c'est de la grosse roche. Je pense que si on avait été dans le coin de la Californie ou dans des endroits comme ça, là, le 6, on l'aurait senti davantage.
Oui, 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 ça bouge plus. Ça bouge différemment.
Oui. Hey, il y avait eu quand même 63 morts et près de 4000 blessés lors de cet événement qui était survenu le 17 octobre 1989 dans la région de la baie de San Francisco. Il est 6h20, on s'en va aux petites vites et dans quelques instants, on parle un petit peu de sport.
Ah ben, si c'est pas André, mon ami, tu tombes pile poil.
Hey, JB, salutations, mon ami.
Moi pis les mathématiques, j'ai besoin d'un coup de main de mon mathématicien préféré.
Toujours là pour aider.
Super. Alors, 2 plus 2 moins 3.1, ça fait quoi, mon André?
Ben, normalement, 0.9.
Aïe, aïe, aïe! Pour novembre, Hyundai offre maintenant les taux à partir de 0,9% sur la IONIQ 5. J'espère qu'on n'en manquera pas.
Sans compter la subvention de 12 000 $ Wow! Quelle aubaine!
Incroyable! 0,9% à l'achat ou encore 110 $ par semaine. Zéro comptant. Fini l'essence et la paix d'esprit.
Faut juste pas en manquer.
Venez adhérer à plus chez Hyundai du Saguenay, boulevard René Lévesque, Jonquière. Ah!
Trium Média, en collaboration avec le 92.5 et Hyundai du Saguenay, vous amène aux Canadiens de Montréal. Le 21 janvier 2025, courez la chance de remporter une paire de billets dans la section Desjardins pour le match du 21 janvier 2025 entre le Canadien de Montréal et le Lightning de Tampa Bay, avec accès à la nouvelle loge Desjardins, incluant buffet et bar ouvert. Le tout d'une valeur de 1 600 $. Pour participer et devenir finaliste, écoutez l'émission dans le vestiaire dès 15h30 du lundi au vendredi. Au signal, appelez en studio et répondez correctement à la question du jour à propos du Canadien de Montréal. Le tirage sera fait le vendredi 29 novembre prochain. Allez encourager le bleu, blanc, rouge avec Trium Média, le 92.5 et Hyundai du Saguenay. Go, Habs, go!
Le sport, presque une religion, plus qu'une passion. Place au sport avec Dominique Bolduc.
Alors que le soleil va se lever seulement à 7h05 ce matin dans le coin de Barrow, en Alaska. Le soleil s'est couché hier et ne reviendra pas avant le 22 janvier prochain.
Oh, ouais.
C'est quand même assez spécial. Belle nouvelle qui a été annoncée hier par les Saguenay de Chicoutimi, alors que le 1er février prochain, lors d'un match face aux Titans de Cathy Batters, ils vont retirer le numéro 96 de Pierre-Marc Bouchard, qui a joué durant 2 saisons. Avec les Saguenay au début des années 2000. Alors, l'annonce a été faite hier de son retrait de chandail. C'est Marc Denis qui en a fait la nouvelle en allant le surprendre dans un match de Ligue de garage. Et Bouchard a été donc félicité par plusieurs coéquipiers avant d'enfiler ce chandail des Saguenay. C'est un méchant beau sentiment en ce moment. Et il était un peu surpris. Il a eu de belles années à Chicoutimi avec les Saguenay. Le natif de Sherbrooke a disputé 2 saisons entre 2000 et 2002 avant de faire le saut directement dans la Ligue nationale de hockey à l'âge de 18 ans seulement, étant le premier choix, en fait, le choix de premier tour du Wild du Minnesota, le 8e au total lors du repêchage de 2022. En 136 rencontres seulement, il a récolté 235 points, dont sa seconde, une saison de 140 points. En 2001-2002, il avait été nommé le joueur par excellence de la Ligue canadienne de hockey lors de cette saison. Maintenant, âgé de 40 ans, il a disputé 593 rencontres dans la Ligue nationale de hockey avec le Wild et les Islanders de New York, amassant 110 buts et 356 points. Sa meilleure saison 2007-2008, où il a récolté 63 points. A joué également dans la Ligue américaine et du côté de la Suisse. Donc, 1er février prochain, les Saguenay qui vont retirer le numéro 96 de Pierre-Marc Bouchard. Premier coach qui a été congédié hier dans la Ligue nationale de hockey, ça vient des Bruins de Boston. Montgomery qui a été licencié hier. C'est l'adjoint Joe Sacco qui va en assurer l'intérim. Lui qui dirigeait l'équipe depuis le 1er juillet 2022, donc ça fait à peine 2 ans et demi. Il en était à sa 3e saison. Le directeur général Don Sweeney qui a donc mentionné avoir pris la décision difficile d'effectuer un changement d'entraîneur, mentionnant que Montgomery est un excellent entraîneur, de la Ligue nationale, une personne encore meilleure. Il a eu un impact positif sur l'organisation et sommes reconnaissants d'avoir eu l'opportunité de travailler avec lui et d'en apprendre davantage. En 184 matchs, et là c'est ça qui est quand même spécial, les Browns n'ont perdu que 41 fois en temps réglementaire en 184 rencontres. 120 victoires, 41 défaites et 23 défaites en surtemps. C'est une moyenne d'efficacité de 71,5%. C'est quand même des chiffres intéressants. À sa toute première saison, il a mené les Browns à une récolte de 135 points et 65 victoires, la meilleure dans l'histoire de la Ligue. Et l'année suivante, au deuxième rang de l'Association Atlantique, sans toutefois jamais passer la deuxième ronde éliminatoire. Cette année, c'est un peu plus difficile. Les Browns jouent pour en bas de 500 avec un dossier de 8-9-3. Viennent d'encaisser une troisième défaite de suite, dont deux d'entre elles par des pointages écrasants. Et surtout, on faisait état de peut-être pas moins d'entente entre les joueurs et le coach. En début d'année, il y a eu une bonne prise de bec entre Montgomery et le capitaine des Browns, Brad Marchand, directement là, sur le banc. Et ben, ça n'allait pas super bien là, pour les Browns depuis ce temps-là. Alors, on a décidé tout simplement de changer d'entraîneur. Donc, c'est Joe Sacco qui sera le remplaçant. Et quand même spécial, les trois derniers coachs des Browns qui ont été licenciés quand même rapidement, ce sont trois gagnants du trophée Jack Adams pour le meilleur coach.
C'est pas une raison de gagner ou pas, c'est si tes joueurs t'aiment ou pas.
Ouais, mais c'est ça. Mais là, ben, en ce moment, on dirait que le message ne passe plus. Dans les matchs présentés hier, Connor McDavid et Leon Draisaitl ont voulu faire oublier leur blanchissage subi face aux Canadiens lundi. Ils ont amassé au moins 3 points chacun dans un match pour la 43e fois de leur carrière. Et pour la 43e fois de leur carrière en pareille circonstance, les Oilers ont triomphé d'un gain de 5-2 sur les Sénateurs d'Ottawa. Connor McDavid a marqué 2 fois en plus d'ajouter une passe. Draisaitl lui a terminé avec 1 but et 2 passes. Pour McDavid, c'est quand même 14 points, dont 6 buts à ses 6 derniers matchs. Le défenseur Evan Bouchard a contribué avec une récolte d'un but et 2 passes, lui aussi, tous obtenus en première période. Il devient le 6e défenseur dans l'histoire des Oilers à amasser au moins 3 points dans une période. Ryan Nugent-Hopkins a également marqué pour les Oilers, alors que les buts des Sénateurs ont été inscrits par Tim Stutzel et Josh Norris. Pour Stutzel, son but était son 99e, donc le prochain lui permettra d'atteindre le plateau des 100. Claude Giroux lui disputait un 1200e match en carrière du côté des Sénateurs, devenant le 133e joueur de l'histoire de la Ligue à atteindre ce plateau et le 9e joueur actif à avoir au moins 1200 matchs derrière la cravate. C'est Stuart Skinner qui a mérité la victoire en repoussant 27 lancers. Tour du chapeau de Mike Schaffley, les Jets de Winnipeg qui ont remporté un duel de titans face aux derniers champions de la Coupe Stanley, les Panthers de la Floride, d'un gain de 6-3, cumule maintenant le deuxième plus grand nombre de triplés dans l'histoire des Jets Thrashers, disons, lui qui a devancé son ancien coéquipier Patrick Laine. Ilya Kovalchuk, lui, trône en tête de la concession avec 11 tours du chapeau, les Jets qui ont établi un record d'organisation en signant une 9e victoire à leurs 10 derniers matchs à domicile. Ils avaient collé 2 défaites de suite pour la première fois de la saison, s'inclinant face aux Panthers samedi dernier, 5-0, également face au Lightning de Tampa Bay. Mais là, on a rebondi à domicile. 13e victoire en 15 matchs pour Connor Hellebuck, alors qu'il a effectué 20 arrêts. Et bien évidemment, tour du chapeau de Mark Shoffley. Dustin Wolf lui a réalisé 28 arrêts, a été parfait en tir de barrage pour aider les Flames de Calgary à l'emporter sur les Islanders de New York par le pointage de 2-1. Rasmus Anderson a inscrit le seul but en temps réglementaire pour les Flames, qui ont remporté 3 de leurs 4 derniers matchs. Kirill Kaprizov a inscrit 2 buts en 3e période. Il a aidé le Wild du Minnesota à vintre les Blues de Saint-Louis 4-2. 22 arrêts pour Philippe Gustafsson pour le Wild, qui porte sa fiche à un dossier de 12-3-3 depuis le début de la saison, une des meilleures formations du circuit. Alex Killorn, lui, a inscrit un but et une passe en 3e période pour mener les Ducks d'Anaheim à une victoire de 3-2 sur les Blackhawks de Chicago. Les Blackhawks qui subissent une 5e défaite en 6 sorties. Connor Bedard a préparé chacun des 2 buts de Jason Dickerson et le gardien Arvid Soderblom a réalisé 18 arrêts. Mika Zibanejad inscrit un but et une passe dans une victoire de 4-3 des Rangers de New York sur les Canucks de Vancouver. Ce but le rapproche à 2 du plateau des 300. Will Cooley et Kaapo Kakko ont également marqué un but et une aide pour les Rangers qui remportent une 3e victoire de suite. En quête de son 600e but, Sidney Crosby qui grimpe tout de même les échelons dans la Ligue nationale dans une autre facette. Mais il aurait toutefois préféré que les Penguins tiennent le coup. Se sont inclinés 3-2 en prolongation hier face au Lightning de Tampa Bay. C'est Braden Point qui fait de belles manœuvres individuelles pour son deuxième du match et couronner donc la remontée de son équipe en prolongation. Pour ce qui est du capitaine des Pingouins, bien, il a pris l'exclusivité du 13e rang dans l'histoire de la Ligue avec sa 1017e mention d'aide, dépassant Joe Sakic. Il a maintenant devant lui Mario Lemieux avec 1033 passes à son compteur. L'attaquant des Pingouins qui demeure toutefois 599 buts à sa fiche. Évidemment, donc son prochain sera son 600e. On a confirmé hier le pire du côté d'Alexander Ovechkin alors que son état de santé va être réévalué de façon hebdomadaire après qu'il se soit blessé à la jambe gauche lors du match entre les Capitals et la formation de l'Utah. Les Capitals ont indiqué que Ovechkin va se soumettre à une batterie de tests supplémentaire lorsqu'il son équipe rentrera au bercail après son voyage. Blessure qui s'est faite lors du match contre l'Utah et lorsqu'il est entré en contact avec Jack McBain. Et là, bien évidemment, là, on parle d'une absence de plusieurs semaines. Évidemment, ce dernier qui avait inscrit 2 buts avant de quitter la rencontre avait mené le circuit Batman avec 15 buts en 18 matchs, pas oublier qu'il a 39 ans. Il totalise 868 buts en carrière. Il est à 27 du record absolu de Wayne Gretzky. Et on dit qu'avant sa blessure, Ovechkin maintenait un rythme de production qui lui aurait permis de fracasser le record de Gretzky en février prochain. Là, malheureusement...
Il va être bon pareil s'il revient rapidement.
S'il revient rapidement ou sinon l'année prochaine. Il y a encore un contrat pour l'an prochain. Je pense qu'Ovechkin va tout donner pour battre ce record. Une page qui se tourne dans le monde du tennis hier alors que Rafael Nadal, c'est à partir des gradins qu'il a assisté à l'élimination de l'Espagne à la Coupe Davis qui mettait un point final à sa carrière de joueur. Le légendaire athlète qui a perdu le premier duel de quart de finale. Et également le numéro 3 mondial, Carlos Alcaraz, qui a remis l'Espagne et les Pays-Bas à égalité. Et finalement, les Pays-Bas qui ont remporté le match décisif de double 7-6-7-6 pour passer en grande finale. Donc, pour Rafael Nadal, c'était son dernier match en carrière. 40 ans, il a joué plus de 20 ans au niveau du tennis professionnel, où il a remporté bon nombre de grands chelems. Il fait partie d'un des 3 meilleurs avec Novak Djokovic, évidemment, Roger Federer. Donc, après Federer, c'est Nadal qui prend sa retraite. Donc, il ne reste plus que Novak Djokovic à évoluer là, parmi les 3 grands qui ont maintenu le tennis pendant les 20 dernières années, disons. Là. Ça fait littéralement là, presque 20 ans que ces 3-là ont pratiquement tout raflé. Et c'est une page qui se termine du côté des Cavaliers de Cleveland. Il a fallu finalement mettre la 2e équipe de la NBA sur la route des Cavaliers pour mettre fin à leur invincibilité. L'équipe qui avait remporté les 15 premiers matchs de la saison ont perdu hier 120-117 contre les Celtics de Boston, champion des dernières séries éliminatoires. Donc pour les Cavaliers, c'est une première défaite cette année en 16 matchs. Et cette victoire qui permet aux Celtics de rejoindre les Cavaliers au 2e rang du groupe C dans l'Est de la NBA Cup avec un dossier d'une victoire et une défaite. Les Hawks d'Atlanta qui occupent le 1er rang avec une fiche de 2 gains en 2 matchs. La NBA Cup est une coupe qui se joue, un tournoi qui se joue pendant la saison régulière. Tous les matchs comptent au classement, tout simplement. C'est juste qu'on a séparé les équipes dans des groupes et on se rend jusque-là. Mais la saison se poursuit malgré tout. Jason Tatum a été le principal responsable du malheur des Cavaliers avec sa récolte de 33 points. Alors voilà, ça fait le tour pour les sports de mon côté. Éric Lavoie fait son arrivée en studio.
Salut, salut à vous autres, les gars qui aiment ça faire triper les gens puis lui faire peur.
Ah, ben écoute. Toi, hier, par exemple, tu battripais en
non,
studio.
Non, pas du tout.
Il avait perdu son crayon.
Nouvelle cachée.
Non. Il avait perdu son crayon.
Tu l'as caché.
Il avait perdu son crayon. Puis finalement, il était en dessous du bureau. Puis écoute, il l'a cherché pendant quasiment une demi-heure. Finalement, c'est Jean-Michel qui l'a trouvé.
Mais oui. Mais
écoute, pendant une demi-heure, là, il est zéro fonctionnel, cet enfant-là. Là. Zéro. Il cherche. Il a appelé Michel Dufault pour savoir s'il n'était pas parti avec.
J'ai menacé Michel Dufault. Ah ouais.
Puis écoute, là, il était à 4 pattes. Il fouillait partout pour s'assurer qu'écoute, il dit « Enlève tes souliers ». Mais il m'a fait enlever mes souliers même pour voir si j'avais pas son maudit crayon. Je l'avais pas caché.
Ça marche bien avec un soulier dans le crayon.
Ouais.
Mais le monde s'est rendu que la mèche courte, tu sais, ça change un propos pour venir, tu sais, l'auditeur de tantôt qui a appelé. tanné des virus, c'est la même affaire, il y a 5, je le sais.
Tanné ou pas, ça va arriver.
Ben oui, c'est la même affaire à la ville. Même si des gens ne vous suivent pas la politique, en ce moment, ça s'assassine parce qu'il est arrivé des trucs avec Mme Dufault, si vous n'avez pas suivi d'actualité. Les gens ne lâcheront pas parce que ça va pas bien, c'est pas facile, tu sais, pour l'harmonie puis tout ça. Fait que même si on ignore, les choses sont toujours là. Mais notre job, ben, c'est d'en parler, on n'a pas le choix. Si vous pensez que c'est un grand complot, là, c'est un autre détail. Là, c'est à vous.
C'est à vous
faire la part des choses.
Aller chercher de l'aide.
Ouais.
Ouais, nous autres, notre job, c'est pas de battre le monde. Là, peut-être lui dire que la Californie va partir à un moment donné.
Ouais. Non, mais ça, on le verra pas.
Ben non, mais.
Ça, on le verra pas de notre vivant. Non, c'est sûr, ça va bouger toujours, mais ouais. De voir l'eau prendre sa place dans la faille, parce que pas, là, c'est ce qui va arriver à un certain moment donné. Ça va être dans quelques centaines d'années. Ouais. Là,
centaines milliers d'années.
Ouais, ça pourrait même jusque-là. Thomas, c'est quoi? C'est
3,4 à 5,5 cm par année.
C'est centimètres par année.
Qu'elle se réélargit.
Comme par hasard, ça prend le même nombre, où est-ce que les médailles montent. T'sais, ce que tu enlèves de quelque part remonte ailleurs en passant. T'sais, une masse, tu auras beau à difformer, ça difforme, elle va d'un autre bord.
Ça, c'est sûr.
Je trouve que c'est un peu... bonne image, je trouvais le parallèle bon.
Mais moi, ce qui me faisait penser, il y a des routes qui passent par-dessus cette faille-là. Pas le choix. Ben oui, c'est une faille qui sépare la Californie. Il faut bien rentrer en Californie à un moment donné. Il y a bien des routes dans cet espace-là.
Oui, mais je ne pourrais pas te dire.
Je pense pas, parce que j'ai pris des photos, puis il n'y a pas grand-chose dans ce coin-là.
Il n'y a pas de pont vraiment
là-dessus. Elle ne fait pas toute la Californie encore.
Elle est pas mal dans le désert, je veux dire. Okay. Quand tu regardes des photos, c'est pas mal du sable que tu vois. Là.
OK. Donc, elle est dans un espace. Parce que, tu sais, pour expliquer, ouais, c'est ça, plus dans le désert. Parce que pour expliquer, c'est qu'elle va, à un moment donné, faire toute la Californie. C'est juste que pour l'instant, il y a des endroits où ça paraît pas encore la faille, tu sais. Mais ça va finir par se faire. Donc, OK, d'accord. Je voulais simplement être sûr parce que, tu sais, ça s'ouvre tout le temps. S'il y a des routes dans ce coin-là, il faut tout le temps refaire la route. Mais c'est parce qu'en dessous, il n'y a rien. À moins que ce soit un pont.
Ben, il y a des ponts, ça, c'est sûr.
Il y a des ponts, j'imagine.
Il y a des ponts à un moment donné.
OK. 6h39. Écoute, on va aller à la pause de Tel Météo. Et dans quelques instants, ben, on va aller aux éphémérides. Rappelant que ce matin, Luc Boivin est avec nous.
Luc avec nous.
7h30. Également, Chassé-Pêche.
Chassé-Pêche, qui revient avec nous.
Oui, absolument. Et 8h30, ben, 8h20, 8h25, c'est Renault.
Exactement. On va nous parler de ski. Est-ce que ça se passe un peu en montagne ou est-ce que c'est déjà parti? Je
pense pas, moi.
Ben, avec sa température-là, je la trouve trop haute.
Ben, trop haute. T'sais, comme vous mentionnez, là, la montagne des Mont-Valin qu'on voyait bien blanche la semaine passée avec tout le soleil et la pluie qu'on a eue, boum, il n'y a plus de neige. On n'est pas prêt à ça encore.
Mais j'ai entendu parler, la vallée des fantômes, tout ça, il y a de la neige, il y a de la trace, là, mais c'est pas partout. Là,
non, c'est sûr. Que si tu montes en montagne, oui, il y en a de la neige. Mais évidemment, là, c'est pas. On n'est pas encore prêt pour, évidemment, faire du ski, mais on se prépare.
C'est le Vendredi fou chez Eugène Allard, Cuisine et Tendance. En entrant, tournez la fameuse roue pour avoir jusqu'à 50 % de rabais sur le total de votre facture. Une journée seulement, vendredi 29 novembre, dans nos 4 magasins Eugène Allard, Cuisine et Tendance.
Quand on porte des prothèses dentaires depuis trop longtemps, Dominique, on peut se rendre compte que notre visage se transforme, que mastiquer peut-être devient plus difficile.
En fait, Annick, je dis toujours que c'est pas nécessaire d'attendre de perdre son dentier en soufflant sur les bougies de son gâteau d'anniversaire pour penser à le changer. Je vous dis ça avec humour, mais à titre de denturologiste, je vous invite sérieusement à faire attention à votre bouche, à la santé de vos gencives, à votre système digestif aussi. Tout a un lien. Attendez pas que vos prothèses soient trop usées.
À la clinique Mon Denturo de Jonquière, la première consultation est gratuite et sans aucune obligation. N'hésitez pas à poser toutes vos questions.
Je demanderai à la cour de se lever pendant le jugement. Je déclare l'accusé coupable.
Le monsieur du Bidli a inadmissible.
Déclare l'accusé non coupable.
Renverser un jugement. Vos lettres peuvent faire pression sur les autorités et contribuer à libérer une personne injustement emprisonnée. Écrire, ça libère. Visitez amnesty.ca.
La météo, une présentation de Kia Harold Auto, 693-8050.
Le Kia Sorento vous en offre toujours plus chez Kia Harold Auto. Obtenez un boni des fêtes de 750 $ sur le Kia Sorento et profitez des offres exceptionnelles de location et de financement. Kia Harold Auto, du mouvement et à l'inspiration.
92.5.
Météo!
Bruine intermittente ce matin, maximum de 7 aujourd'hui, nuageux ce soir, 40% de probabilité d'averse, minimum de plus 3 au cours de la nuit, des nuages pour demain, 60% de probabilité d'averse, maximum de 6. Vendredi, pluie intermittente, max de 5, averse samedi, max de 4, neige ou pluie dimanche, max de 2. On a 3 au Saguenay, 3 au lac.
Radio d'ici. Par une journée comme aujourd'hui, un événement, une personnalité, voici les éphémérides du jour.
Les éphémérides pour un 20 novembre, aujourd'hui, jour du rouleau.
Du rouleau.
Qui est un instrument agricole qui était également appelé le brise-motte. Qui est en fait, c'est plusieurs rouleaux métalliques composés de cylindres puis de disques indépendants qu'on prenait puis ça pouvait faire écraser la terre puis tout ça.
Okay.
Et puis, ça brisait les mottes également. Donc, on utilisait ça à l'époque. Évidemment, là, c'est un outil qui s'est grandement amélioré, j'imagine, avec l'avancement de la technologie, disons. Bonne fête au Edmond aujourd'hui. Bien, Edmond, il y en a encore. Hein?
Oui, oui.
Mon oncle Edmond, évidemment. Edmond de d'Est-Anglie, qui était roi d'Est-Anglie. Est-Anglie, qui est une région d'Angleterre de l'Est, qui a perdu une bataille contre les Danois et qui a préféré mourir plutôt que d'accepter leurs conditions contraires à sa religion. Il faut remonter là, quand même au 9e siècle. Là. Il est décédé en 870, mais c'est à cette époque-là, lui a décidé, « Ben, regarde, moi, vos conditions, c'est contraire à ma religion, donc je préfère mourir. » Journée internationale des droits de l'enfant aujourd'hui. Journée également de l'industrialisation de l'Afrique, hein, parce que ça industrialise de plus en plus l'Afrique, ça va quand même. T'sais, on parlait du fameux... C'est vraiment un terme qu'on n'utilise plus, je vous dirais, depuis 20 ans, le tiers-monde.
Ouais.
On l'utilise plus, ce terme-là, tu sais, le tiers-monde.
Peut-être parce qu'on ne veut pas le voir, mais ça ne va pas mieux là-bas.
Ouais, il y a des endroits que c'est pas...
Ben, le problème, c'est que oui, les industries s'implantent et tout ça, sauf que c'est les gouvernements corrompus qui ramassent tout le cash.
Souvent,
c'est
ça. Souvent.
Ouais. Puis restons du côté de l'Afrique, tiens, curieux hasard, dans le journal du 20 novembre 1996, on était un mercredi également, et on parlait du capitaine Forcier qui part en mission en route vers le Zaïre, qui est maintenant la République démocratique du Congo. Disons qu'il s'en allait du côté de l'Afrique, ça brassait dans ce coin-là dans les années 90. Propriétaire de chalet...
Ah, le Zaïre, c'est l'ancien Congo, c'est maintenant le Congo.
Oui. C'est ça, dit République démocratique du Congo.
C'est vrai, ouais. Je viens d'allumer. Là,
ouais. Après, à New York, c'était pas le Zaïre aussi.
Non, Zamunda.
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 Ben oui,
ben oui. Le royaume de Zamunda.
Propriétaire de chalet, la lutte au décret s'engage. Marie-Lise Pilote découvre les artisans et gardiens des sacs de Denis Rappelé au Colorado. Alors, c'est ce qu'on avait donc à la une journal en 1996.
1838, William Painter naissait, un ingénieur américain, un inventeur dont tout le monde utilise maintenant son invention.
Le pinceau.
Non, la capsule et le décapsuleur.
Ah oui.
Pour aller l'air
oui.
Et tout ça.
Okay.
85 brevets, dont un siège éjectable pour les trains voyageurs.
85?
Oui. T'imagines,
pour les voyageurs. Pouf!
tu pars.
Ouais.
moi, je l'avais inventé un quand j'étais... Fouille-moi pourquoi. Quand j'étais au secondaire 2, notre prof de français, comme oral, fallait qu'on invente de quoi? Ben, on invente de quoi pas le faire, mais tu sais, imaginer une invention.
Oh oui.
Puis moi, mon invention, c'était des sièges éjectables pour des avions de ligne. Autrement dit, si le pilote sait qu'il n'y a rien à faire avec l'avion, ben il peut éjecter des sièges des passagers, puis qui flottent avec un parachute et tout ça. Toi, tu restes assis, tu t'attaches, t'attends.
Ouais, non, pas moi. Tu sais, l'autre, tu veux l'autre partir.
Ouais, mais en même temps, t'es sûr de t'écraser. Tu dis, moi, je peux sauver du monde.
Ben oui.
1841, Wilfrid Laurier, homme politique canadien, 7e premier ministre du Canada de 1896 à 1911. 1866, Kenesa Mountain Landis, juriste américain, premier commissaire du baseball majeur.
Ah.
Ça devait être probablement une Première Nation, parce que Kenesa Mountain.
Ouais,
ça sonne peut-être, assez,
Ouais. On ne dira pas, on a des préjugés, là, mais disons que...
Native American, parce que c'est comme ça qu'ils appellent. Mm-hmm. 1874, James Michael Curley, juriste et homme politique américain, gouverneur du Massachusetts et 4 fois maire de Boston. 1889, Edwin Hubble, astronome américain qui a démontré l'existence d'autres galaxies, a aussi démontré qu'elles s'éloignaient l'une de l'autre, donc l'expansion de l'univers, et il a créé le système de classement des galaxies.
Donc, le fameux gros télescope, c'est en son honneur.
En son honneur, ouais. À lui. Et tu sais, je vous parlais d'une femme qui avait cartographié à la main 150 étoiles et galaxies.
Oui, oui.
Bon, ben, c'est avec Edwin Hubble qu'elle a fait ça.
Ah, OK.
Parce qu'elle a créé le système de classement des galaxies. 1892, James Collip, biochimiste canadien, co-découvreur de l'insuline. 1900, Chester Gould, acteur américain de comic strip et créateur de Dick Tracy. Pas acteur, auteur américain plutôt. Mm-hmm. Créateur de Dick Tracy. 1921, Erling Carothers Garrison, mieux connu sous le nom de Jim Garrison. Vous l'avez tous vu dans le film JFK, joué par Kevin Costner. C'est son rôle, c'est lui. Okay. Donc, c'est lui qui a instigé le procès pour tenter de découvrir la vérité sur la mort de JFK. D'ailleurs, il est dans le film. Il fait un caméo.
Ah, OK.
1925, Bobby Kennedy, homme politique américain, procureur général des États-Unis de 61 à 64, qui s'était attaqué à la mafia, assassiné pendant les primaires démocrates. 1942, Joseph Robinette Biden, junior.
Joe Biden. Président, oui.
Évidemment. La même année, Norman Greenbaum. Deux gars à l'opposé, mettons. Joe Biden et Norman Greenbaum. Chanteur de Spirit in the Sky, numéro 3. Chanson qui a été amenée et jouée à bord d'Apollo 13.
Ah oui?
Oui, ils ont joué cette tune-là. 1945, Rick Mondi Jr., joueur de baseball américain. La même année, Joan Walkman, Nanette.
Ah!
Son vrai nom, c'est Joan. Chanteuse et actrice canadienne d'origine américaine, qui chante ce soir, on danse à Nazilan, Lady Marmalade, Danser, Danser, Don Don, Le temps de m'y faire, a été les... back vocal des Rolling Stones, de Johnny Hallyday, entre autres. 1946, Dwayne Allman, guitariste américain des Allman Brothers, aucun numéro 1. Ramblin' Man a été numéro 2. Il a aussi joué avec Derek and the Dominoes, avec Eric Clapton. Et le groupe qui accompagnait George Harrison sur l'album All Things Must Pass. 1947, Joseph Fiddler Walsh, mieux connu sous le nom de Joe Walsh, chanteur et guitariste américain de Eagles. Leur numéro 1, Best of My Love, New Kid in Town, One of These Nights, Heartache Tonight et Hotel California. Lion Eyes a été numéro 2, Ticket to the Limit, numéro 4. 1949, Jeff Dowd, producteur américain de cinéma, totalement inconnu, mais a quand même inspiré les frères Coen pour la création du personnage du grand Lebowski. Pauvre lui. Pauvre 1956, lui, ouais. Mary Kathleen Collins, mieux connue sous le nom de Beau Derek.
Ah, mon Dieu.
C'est elle qui faisait Jane dans Tarzan, le film qui était réalisé par son mari. 1959, Marie Sean Young, actrice américaine qui a été dans Blade Runner, Dune, Wall Street, Ace Ventura, Blade Runner 2049. Sortie en 2017, donc elle était décédée, mais elle était là en CGI.
Ah, OK.
Non, excusez. 1960, Marc Labrèche.
Oui.
Son premier rôle au cinéma. Un infirmier dans Le ventre du dragon.
Ah ouais?
Ouais.
OK.
A joué dans la télé jeune, très jeune, dans Quelle famille?
Ouais.
Et on l'a vu, les enfants de la télé, tout blond, tout frisé et drôle. L'assassin jouait du trombone, Mathusalem 1 et 2, L'Odyssée d'Alice Tremblay, Monica la mitraille, L'âge des ténèbres, à la télé chez Denise, Beau et chaud, Robin Stella, Le club des 100 watts, parce qu'il faisait le prof bof.
Le prof bof.
La petite vie, Régent.
Ben, non, Pinson.
Rénal. Rénal, excusez-moi. La fin du monde est à 7 heures, Le grand blond avec un chaud sournois, Le cœur a ses raisons, 3600 secondes d'extase, Les bobos, Pied de poule, la pièce de théâtre.
Oui, bien sûr.
1962, Peng Liyuan, chanteuse de variété chinoise et épouse de Xi Jinping.
Ah, OK, oui, le président chinois.
Ouais. Je l'ai jamais vu. On ne la voit jamais. Ouais. 1964, Doug Ford, junior, homme d'affaires et premier ministre de l'Ontario, frère aîné de Rob Ford. 1971, Joel McHale, acteur et producteur américain qui était dans Spider-Man 2, Le Seigneur de Dogtown, Spy Kids 4, Ted, Mortal Kombat, en dessin animé, parce qu'il n'est pas musclé pour faire Johnny Cage. Et producteur et animateur de Crime Scene Kitchen. Dans le fond, il rentre dans une cuisine. Là, ben, il y a des indices pour savoir c'est quoi le dessert à faire.
OK.
Fait qu'il faut qu'il découvre c'est quoi le dessert puis le faire. Ceux qui sont le plus proches gagnent. 1975, Frédéric Dirks Bentley, chanteur et guitariste américain de country. 1977, Josh Turner, lui aussi, guitariste et chanteur de country. 1986, Andrew Ranger, pilote automobile québécois en Champ Car et NASCAR. Et 1988, Maximilian Colenda Pacioretty.
Et tabarnouche, OK.
Max Pacioretty, joueur de hockey américain, probablement de descendance italienne.
Ouais, ouais.
C'est un Italien. Possible. Du côté des décès 1910, Lev Nikolaïevitch Tolstoï.
Léon Tolstoï.
Je change son nom. Écrivain russe qui a écrit Guerre et paix, qui a 1572 pages. Et Anna Karenine. 1975, Francisco Franco. Homme d'État espagnol, dictateur de 1939 à 1975. 1997, Robert Palmer.
Oh!
L'Américain. Écrivain. Oui, écrivain et musicologue. Donc, pas celui qui chante, Simply Irresistible, okay. Qui est un Britannique. Okay. Je trouvais ça juste drôle qu'il avait le même nom. 2005, Henri Tranquille, libraire, écrivain, critique littéraire québécois. C'est dans sa librairie qu'ont été vendues les 400 copies originales du Refus Global.
Ah ouais, OK, c'est dans lui.
Ouais. Je pense qu'ils ont édité aussi, là, tu sais, imprimé, okay, ouais. Tout ça. 2020, Jake Burton Carpenter, snowboarder professionnel américain, créateur de la marque
Burton.
D'où son nom.
OK. Hey, du côté de la chanson d'un choix ce matin.
Beaucoup, c'est qui a décidé. Là. Je pense à toi.
Là. C'est à moi?
Je pense.
Ouais, hier, j'ai décidé.
Ouais. Moi, j'avais fait avant.
Ben, regarde, on va y aller avec du Nanette ce matin.
Mais c'est laquelle tu vas prendre, sûrement. Surprends-nous. J'aurais mis danser. Tu en mettais les autres.
Pas mal tout le temps, celle-là qui passe. Je te dis, danser, c'est la plus. Ouais, c'est la plus.
Des plus pop.
Ouais. T'sais, moi, je vais prendre la vraie version, la longue version.
Ah.
Call Girl, longue version, parce qu'il y en a une de 3 minutes, il y en a une de 5 minutes. Je vais avec la vraie de vraie. Les vraies versions, c'est toujours les meilleures.
Viens me voir.
Voici Nanette Walkman, Call Girl.
Si tu m'appelles par un jour,
Avez-vous compris de quoi qu'on parlait exactement? Il faut appeler la fille.
Call girl.
Hey, ça fait deux minutes que ça dit call girl.
Ouais.
Puis avec différentes langues. Là.
Oui, effectivement. Puis c'est un peu ça, la version longue. C'est qu'on entend toutes sortes que dans la version.
Mais
un peu plus
elle représentait-il la sensualité, cette femme-là, pas à peu près dans le temps?
Ben absolument, absolument.
Vous avez 8 ans, je comprenais ce qui se passait, même à 8 ans. T'sais.
Elle a eu énormément de succès. Puis les autres membres, t'sais, elle a été choriste pour Rolling Stone.
Rolling Stone et Johnny Hallyday.
Oui, oui, oui.
Elle a eu toute une carrière, faut le dire, là. Côté d'un networkman. Donc, à quel âge aujourd'hui? Là, doit frôler 79.
Ah ouais, à ce point-là.
945, quand même. Donc, ben, bonne fête à Nanette Workman qui a eu énormément de succès.
Son père était trompettiste pour Tommy Dorsey.